Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous ferons le point sur 4 ans de guerre au Yémen, un conflit non résolu qui a plongé le pays dans la souffrance et dont personne pour l'instant ne voit l'issue. Nous y reviendrons avec Christian Chesneau.
Et puis en Syrie, le dernier bastion des djihadistes du groupe État islamique est tombé ce week-end. Quel sort réservé à ceux qui ont été faits prisonniers, se sont rendus les Kurdes de Syrie appellent à la création d'un tribunal international pour les juger, nous dira Omar Waman.
Une réunion entre les dirigeants français, allemands, européens et chinois a lieu ce matin à l'Elysée à l'occasion de la visite de Xi Jinping en France, alors qu'un gros contrat vient d'être signé entre Airbus et le gouvernement chinois. Et puis en France, retour sur la personnalité de Nathalie Loiseau qui sera officialisée aujourd'hui tête de liste LREM pour les élections européennes. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Anne-Laure, IVG, jusqu'où les médecins peuvent-ils faire jouer une clause de conscience? On posera la question à Joël Moret-Bailly, les professeurs de droit privé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, notamment spécialiste des déontologies des professions de santé.
C'est un conflit qui a mis du temps à faire parler de lui et pourtant, le 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite et ses alliés se lançaient à l'assaut du Yémen pour écraser la rébellion des Houthis. Depuis, des milliers de morts, des millions de civils en danger, la misère et les épidémies et aucune issue en vue. Aucun des belligérants, en effet, ne semble être en mesure de l'emporter dans un pays dont c'est peu de dire qu'il a fait naufrage. Le récit de Christian Chesneau.
Tempête décisive, la campagne militaire lancée par l'Arabie Saoudite et ses alliés a tourné au fiasco dans les montagnes yéménites. Les rebelles houthis tiennent toujours la capitale Sanaa, les lignes de front ne bougent plus, il n'y aura pas de victoire militaire décisive. Dans le port de Deida, principal point d'entrée de l'aide humanitaire, des combats éclatent de manière sporadique malgré une trêve entre les belligérants qui s'accusent mutuellement de ne pas la respecter. Un désengagement qui était prévu à Taiz, une ville importante du sud-ouest du Yémen, semble bien lointain. Côté diplomatique, c'est aussi l'impasse. Aucune négociation en vue sous les auspices de l'ONU. Le conflit yéménite n'intéresse pas les grandes puissances. Et pourtant, la population vit un calvaire au quotidien. 24 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les deux tiers des régions du pays sont en situation de pré-famine. Dans cette tragédie, les enfants sont les premières victimes en termes de santé et d'éducation. Depuis quelques années, le choléra a même fait sa réapparition comme si le Yémen n'avait déjà pas assez de malheurs qui s'abattait sur sa population.
Christian Chesneau. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont continué cette nuit, de même que les tirs de roquettes palestiniennes, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu sous l'égide égyptienne. L'armée israélienne s'est dite prête à augmenter ses opérations si nécessaire. La reprise des hostilités date de la nuit de dimanche à lundi, après un tir de roquette côté palestinien. Depuis la guerre de 2014, les tensions sont récurrentes et particulièrement en ce moment dans un contexte d'élections législatives israéliennes et de nombreuses manifestations à Gaza. En Syrie, c'est un conflit dans le conflit qui a pris fin, lui, samedi dernier. Le dernier bastion du groupe État islamique est tombé à Baghouz grâce aux forces des FDS, une alliance arabo-kurde soutenue notamment par les États-Unis. Les derniers djihadistes ont été tués et pour juger ceux qui se sont rendus ou qui ont été faits prisonniers, il faut créer un tribunal international spécial. C'est en tout cas la demande des Kurdes de Syrie, principaux artisans de la victoire contre l'EI. Dans le nord de la Syrie, les précisions de l'envoyé spécial de France Culture, Omar Waman.
La liste des crimes commis par le groupe État islamique est longue. Exécutions barbares, de masse, enlèvements, tortures, esclavage sexuel, viol ou raquettes. Durant plus de 4 ans, les djihadistes ont été sans pitié. Pour les Kurdes victorieux de Daesh, ces crimes relèvent de l'histoire et doivent être jugés sur leur territoire où sont détenus des milliers de terroristes. Adnan a perdu 11 membres de sa famille, mère, frère, sœur et cousin. Pour ce jeune professeur de Kobané, l'heure de la justice a sonné. J'ai éprouvé une joie intense après la défaite de Daesh, mais d'insister, je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas de œil pour œil, dent pour dent, mais que la justice soit rendue ici, que ces gens soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis, que les pays d'où ils sont originaires prennent la mesure du mal qu'ils nous ont fait, du cauchemar que nous avons vécu. Les Kurdes, en quête de légitimité internationale, avancent comme argument que la majorité des familles des victimes de Daesh se trouvent en Syrie et en Irak, tout comme les nombreux documents, témoins et preuves.
Combien de temps pourra-t-elle encore tenir? La question s'est souvent posée à propos de Theresa May et de ses difficultés à engager le pays sur la voie d'un Brexit ordonné. Mais depuis hier soir, elle se pose avec encore plus d'insistance. Les députés britanniques ont en effet voté un amendement leur permettant d'influer sur le processus du Brexit, ce qui signifie en résumé que la Première ministre perd le contrôle sur la façon dont va se dérouler cette sortie de l'Union européenne, sans compter la démission hier encore de 3 secrétaires d'État. On y reviendra plus largement dans notre journal de 7h30.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. C'est en général le signe de négociations commerciales qui se passent bien. Les commandes d'Airbus par des puissances étrangères. Hier, c'est avec la Chine que l'avionneur européen a conclu un important contrat.
Oui, une commande de 290 Airbus A320 et de 10 Airbus A350. Une bonne nouvelle pour l'emploi européen. C'est féliciter l'entreprise. Une coopération commerciale qui devrait aussi se concrétiser à travers le gigantesque projet chinois de la nouvelle route de la soie, des investissements qui inquiètent d'ailleurs certains partenaires européens. Sans doute en sera-t-il question ce matin à l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron a invité son homologue allemande, le président de la Commission européenne, à rencontrer le dirigeant chinois en visite en France. Les précisions de Bertrand Galichet.
Trouver des points de convergence entre l'Europe et la Chine, c'est l'objectif annoncé de cette rencontre inédite ce matin à l'Élysée. En invitant Xi Jinping à discuter avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker des défis du multilatéralisme, Emmanuel Macron force la main à la Chine, qui a souvent eu tendance à jouer sur les divisions de l'Europe.
Nous avons placé au centre de nos discussions la question du partenariat entre la Chine et l'Europe. Un partenariat euro-chinois fort, un partenariat économique et commercial respectueux de nos intérêts mutuels et bâti sur véritablement un cadre loyal et équilibré.
Le président français martèle que le fameux projet des nouvelles routes de la soie, la création d'infrastructures financées à coups de milliards par la Chine, doit respecter la souveraineté des États concernés, une forme de mise en garde à Xi Jinping, qui pourtant se présente comme un fervent partisan de l'Union européenne. Une Europe unie et prospère correspond à notre vision d'un monde multipolaire, estime Xi Jinping. Il assure que la Chine soutiendra toujours le développement et l'intégration de l'Union européenne. Un affichage de bonne volonté avant cette rencontre à l'Élysée ce matin avec 3 figures emblématiques de l'Europe.
Bertrand Galichet, en France, elle va devoir mener la liste de la majorité aux élections européennes, une élection qui ne mobilise traditionnellement pas les masses, et encore moins aujourd'hui alors que le rejet des politiques n'a jamais été aussi fort. Nathalie Loiseau, donc, devrait être officiellement désignée aujourd'hui comme tête de liste LREM pour les élections de mai prochain, une figure politique assez méconnue, pourtant actuelle ministre des Affaires européennes, et une candidature présentée par le parti présidentiel comme celle de l'expérience face aux autres têtes de liste. Rosalie Lafarge.
La première place pour l'éternelle première de classe. Nathalie Loiseau, comme elle le raconte dans son autobiographie, sait lire à 4 ans, saute 2 classes, décroche son bac à 16 ans avec mention très bien, avant d'intégrer Sciences Po Paris. Suivront 26 ans de diplomatie qui l'emmèneront vivre et travailler sur tous les continents. Du Quai d'Orsay à Washington, en passant par Jakarta ou le Sénégal, ce bébé Juppé fourbit ses armes, puis se pose le temps d'un quinquennat de 2012 à 2017 à la tête de l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Trop technocrate, disent déjà ses adversaires. Elle, au moins, maîtrise ses dossiers, répond son entourage. Et notamment les dossiers européens, maintenant. Nathalie Loiseau travaille sur le Brexit depuis 18 mois. Elle a vu passer la crise avec l'Italie. Et c'est aussi pour cela que son camp a fait pression gentiment pour qu'elle se lance. Depuis des semaines, parlementaires et membres du gouvernement poussent cette féministe de 54 ans à prendre la tête de liste. Elle a du mal à dire oui, à lâcher son ministère où elle se sent utile. Son débat télévisé face à Marine Le Pen finit, dit-elle, par la convaincre. Elle l'annonce d'ailleurs en direct, sous le rire moqueur de la présidente du Rassemblement National. Prélude d'une campagne qui s'annonce rude, tendue et expresse. Nathalie Loiseau aura-t-elle les épaules? Elle est prête, insistent ses proches. Prête à prendre des coups, mais aussi à les rendre.
Et son départ du gouvernement devrait ouvrir la voie à un mini-remaniement ministériel. Les députés français devraient voter aujourd'hui le projet de loi santé proposé par la ministre Agnès Buzyn, qui prévoit notamment une révision de la carte hospitalière ou encore la fin du fameux numerus clausus pour les étudiants en médecine. Le but affiché, c'est de combler le manque de médecins via notamment une régularisation des médecins étrangers, la création de postes d'assistants médicaux également et la labellisation de 5 à 600 hôpitaux de proximité. L'accès aux données de santé sera également élargi. Ils sont jugés en appel pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Abdelkader Mera, le frère du tueur de Toulouse et Montauban, et Feta Malki, accusé de lui avoir fourni des armes, sont rejugés par la cour d'assises d'appel de Paris après avoir été condamnés en première instance à 20 et 14 ans de réclusion criminelle. L'enjeu depuis hier, c'est toujours de déterminer le rôle exact joué par les deux hommes et notamment le frère de Mohamed Mera, considéré comme son mentor dans les attentats des 11, 15 et 19 mars 2012. Le compte-rendu de cette première journée d'audience par Florence Turm.
Ils ont le même âge à quelques mois près. Anciens copains de la cité des Isards de Toulouse jusqu'en 2006. Ensuite, tout les sépare. L'examen de personnalité de Feta Malki marque déjà le fossé entre le petit délinquant, consommateur et fournisseur de hashish, de voitures et de bijoux, et l'homme qui a basculé dans un islam radical, coupé les ponts avec son passé. D'un côté, Feta Malki, silhouette perdue dans une chemise bleue trop grande pour lui. De l'autre, Abdelkader Mera, carrure massive qui s'est un peu empâtée depuis le premier procès, barbe noire fournie, cheveux longs ramassés en catogan et sur le front, la marque caractéristique d'une pratique religieuse intensive. Pas un regard entre eux depuis le début de l'audience. À l'avocat général qui l'interroge sur le radicalisme et les filières islamistes de Toulouse, Feta Malki réplique « Moi, j'en vois pas de nébuleuse comme vous dites. Quelqu'un qui est religieux, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec un délinquant comme moi ?» Chacun son chemin. Feta Malki situe la rupture au moment du mariage d'Abdelkader Mera et ses premiers séjours en Égypte, des éléments que la cour devrait aborder dès ce matin avec l'examen de personnalité du principal accusé qui est resté muet comme absent lors de cette première journée, le regard de plusieurs familles de victimes braquées sur lui mais sans la tension manifeste qui avait marqué les premiers instants d'audience du procès d'octobre 2017.
Florence Turm, un mot du temps de ce mardi du vent sur le sud-est et de la pluie en Corse. Ailleurs, ce sera une belle journée avec des nuages tout de même le matin du Poitou à l'Alsace. Des nuages qui resteront une partie de la journée sur le Grand Est. Quelques gelées encore ce matin, comptées de 1 à 6 degrés du nord au sud au minimum. Les températures maximales iront de 10 à 18 degrés.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. 7h12 sur France Culture. IVG, jusqu'où les médecins peuvent-ils faire jouer une clause de conscience? C'est dans un instant.